réplique face à l'immigration avec François Jemaine et Didier Lesky. Ce qui me frappe toujours dans les débats sur l'immigration en France, c'est la très grande confusion autour des chiffres. Écrit dans son livre « On a tous un ami noir », François Jemaine, qui enseigne les politiques du climat et d'immigration à Sciences Po et à Bruxelles. Nous essaierons donc de dissiper cette confusion avec François Jemaine lui-même et avec Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui publie ce grand dérangement, l'immigration en face. Première question donc, combien y a-t-il d'immigrés en France aujourd'hui, Didier Lesky?
Écoutez, aujourd'hui il y a 6,7 millions d'immigrés, et ce qu'on entend par immigrés, c'est des personnes qui sont née étrangère à l'étranger, c'est la définition que nous retenons. Et parmi ces 6,7 millions d'immigrés, il y en a 4,2, un peu plus de 4 millions qui ont toujours la nationalité étrangère, et puis il y en a 2,5 millions qui ont la nationalité française.
Et quelle est la proportion parmi ces immigrés, des immigrés venus du Maghreb et d'Afrique, et des par rapport aux immigrés européens? Toujours Didier Lesky.
Alors ça, c'est la grande évolution de ces 50 dernières années. C'est-à-dire que jusque dans les années, au début des années 80, un immigré sur deux était d'origine européenne. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'un immigré sur deux qui est d'origine du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne. C'est ça l'évolution des titres. Et avec une évolution aussi en volume. Au moment, dans les années 60, on avait, entre 1960 et 1965-66, on délivrait à peu près 180 000 titres de séjour tous les ans, et c'était essentiellement des Espagnols, des Portugais, des Italiens. Aujourd'hui, on est dans une moyenne, depuis le début du siècle, autour de 260 000 titres de séjour par an, et c'est uniquement des extra-européens. La caractéristique globale de la France par rapport à d'autres pays, c'est que les premières nationalités d'étrangers, c'est d'abord l'Algérie, le Maroc et les subsahariens. Pour comparer par exemple avec un pays comme l'Allemagne, c'est d'abord les Polonais, les Turcs ou les personnes qui viennent de la Fédération de Russie.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres, François Jemaine?
Oui, bonjour Alain Finkielkraut. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec les chiffres. Mais ce qui est frappant, effectivement, c'est la grande confusion dans ces chiffres. D'abord parce que ça dépend un peu qui les compte. L'INSEE, l'ONU ne les compte pas de la même manière. Par exemple, en France, on va compter comme immigrés les Français, les étrangers qui sont nés étrangers à l'étranger. Tandis que l'ONU va, par contre, intégrer dans ce chiffre également les Français qui sont nés à l'étranger, ce qui fait évidemment une proportion d'immigrés plus importante en France. Mais je dirais que ce qui entretient la confusion surtout, c'est que différentes catégories d'immigrés sont assimilées ensemble dans un grand agrégat. Prenez mon cas personnel. Moi qui suis né en Belgique et qui ai migré en France, je ne suis généralement pas, dans les débats publics, considéré comme un immigré. On me confond souvent avec un Français. Est-ce que j'ai quelque chose en commun avec ces Afghans qui logent dans des tentes et qui sont quelque part ballottés aux quatre coins de l'Europe? Évidemment, nous sommes dans des situations très différentes, même si statistiquement, nous sommes dans le même agrégat. Et donc, quand on me demande combien il y a d'immigrés en France, je réponds souvent qu'il y en a en réalité moins que de gauchers. Il y a environ 13% de gauchers en France. Je suis sûr que c'est le cas de nombreux auditeurs qui nous écoutent. Et pourtant, ces gauchers ne sont jamais considérés comme un groupe, constitués comme un groupe à part. Pourtant, quand on parle des immigrés, des migrants, ou même des réfugiés ou des étrangers, on les considère toujours comme un groupe à part constitué, comme si c'était cette qualité d'immigré qui était véritablement consubstantielle de leur identité. Et je crois que notre défi, si on veut discuter de l'immigration en France, c'est non seulement de discuter de ces grands chiffres, de ces grands agrégats, mais aussi de la singularité de chacun d'entre eux.
Alors, je pourrais dire, avant de poser une question à Didier Leschi, que je suis gaucher moi-même et qu'il n'y a pas de difficulté particulière d'intégration des gauchers, d'autant moins qu'aujourd'hui, on ne les contrarie plus. Je n'ai pas été un gaucher contrarié. Mais je voudrais prolonger mon questionnement sur les chiffres. Pierre Vermeyren et Michel Tribala affirment que sur 67 millions d'habitants dans la France en 2018, 14 millions de personnes, soit à peu près 21%, sont directement issues de l'immigration. Confirmez-vous ces chiffres l'un et l'autre? Didier Leschi.
Oui, bien sûr, c'est sur deux générations, on peut même dire que sur trois, ça fait un peu plus. C'est ça la particularité française qui en fait un pays original en Europe, si j'ose dire, c'est le fait que, comme le dit François Héran, où il y a une longue infusion de l'immigration depuis la moitié du 19e siècle, et nous avons donc une proportion globale qui est celle-là. Mais après, je suis d'accord avec François Gemène, c'est-à-dire que le problème n'est pas une question de nombre en ce qui concerne la France, c'est une question d'origine et de la manière dont on peut intégrer les personnes en fonction de notre situation sociale et économique. Et bien évidemment, il y a des immigrations différentes, et c'est différent d'être un immigré portugais, italien, que d'être un immigré venant d'un pays profondément déstructuré, où il n'y a plus de système scolaire depuis longtemps, et où la déstructuration de l'État pèse sur les consciences. Et c'est ça un peu qui est compliqué aujourd'hui pour la France, c'est qu'elle a une population, une partie de son immigration qui est moins diplômée qu'ailleurs en comparaison de d'autres pays de l'OCDE. Les derniers rapports de l'OCDE, c'est que 43% des immigrés qui sont en France n'ont pas un niveau de diplôme supérieur au bac. Et c'est là où on a des difficultés particulières. Donc, je suis d'accord avec François Gemène, la question n'est pas celle du nombre, mais celle du parcours d'intégration et des possibilités aujourd'hui qui sont offertes. Et puis après, il y a la question de l'asile, qui surdétermine un peu l'ensemble des questions d'immigration.
Alors justement, un dernier mot sur les chiffres. Combien y a-t-il de nouveaux arrivants en France par an? Didier Leschi, puis François Gemène.
Alors, de nouveaux arrivants. Il y a la délivrance des titres de séjour, 274 000 l'année dernière, et il y a les demandeurs d'asile. Toutes procédures confondues, l'année dernière, il y a eu 177 000 demandeurs d'asile, toutes procédures confondues. Aujourd'hui, la France enregistre plus de demandeurs de l'asile que l'Allemagne, la France et l'Allemagne étant les deux pays qui enregistrent le plus de demandeurs d'asile en Europe. Mais la difficulté ou la particularité française, c'est le type de demandeurs d'asile qu'on a. Pour dire un peu de manière un peu abrupte, on a beaucoup plus d'Algériens qui demandent l'asile en France que de Syriens.
D'accord. Et donc, au total, avec les clandestins, ça fait à peu près 400 000 par an.
Alors, les demandeurs d'asile ne sont pas des clandestins.
Non, mais il y a des clandestins aussi. Donc, je veux dire le total, pour rester dans la question des chiffres. Des nouveaux arrivants en France chaque année.
Alors, les clandestins, c'est difficile de dire combien il y a de clandestins qui arrivent. Mais disons que dans la masse globale, oui, il y a en plus des clandestins voilà. Qui arrivent, mais c'est moins quantifiable.
D'accord. Quel commentaire vous inspire tous ces chiffres, François Gemène?
Deux choses. Sur ce qu'on appelle les clandestins ou les illégaux, que j'appellerais personnellement plutôt des migrants en situation irrégulière, puisque ce ne sont pas des criminels, il faut bien se rendre compte que la plupart d'entre eux arrivent en France parfaitement légalement. C'est-à-dire qu'ils vont y arriver avec un visa de travail ou avec un visa touristique, ou ils vont déposer une demande d'asile à l'OFPRA, et qu'ils vont rester en France une fois que leur visa aura expiré, ou une fois que leur demande d'asile aura été refusée. La France accepte environ 39% des demandes d'asile qui lui sont soumises. Et donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, que ceux qu'on appelle migrants irréguliers et dont on estime le nombre à environ 350 000 en France pour le moment, ce sont des gens qui généralement arrivent par des moyens parfaitement légaux. Ouais, ensuite,
ce n'est pas le cas de tous quand même. Le Tunisien qui en France a commis un attentat à Nice était arrivé par des moyens illégaux. Et d'ailleurs, ceux qui aident les migrants à franchir illégalement la frontière ont maintenant le droit de le faire en vertu du principe de fraternité qui a été constitutionnalisé, si j'ose dire, ou en tout cas légitimé par le Conseil constitutionnel. Donc il y a aussi des gens qui arrivent par des moyens illégaux, François Gemène.
Alors, la politique européenne de fermeture des frontières extérieures, qui, je dirais, était le pendant de Schengen depuis le début des années 90, a effectivement fait croître l'immigration dite illégale, c'est-à-dire que, face à des frontières fermées, de plus en plus de gens qui avaient absolument besoin de les franchir, soit qu'ils fuient des guerres ou des violences, soit qu'ils cherchent un avenir meilleur pour eux et leur famille, ces gens qui avaient absolument besoin de les franchir n'ont eu d'autre choix que de les franchir de manière illégale, souvent à l'aide de passeurs. Et donc plus nous avons fermé les frontières, plus nous avons en réalité fait augmenter l'immigration illégale et plus nous avons développé également le commerce des passeurs. Et donc cette illégalité, nous l'avons quelque part largement créée en n'offrant pas de moyens, de voies légales pour venir en Europe à ceux qui étaient persécutés dans leur pays ou à ceux qui fouillaient la misère et qui devaient nourrir leur famille. Et c'est pour ça, en réalité, que si nous ouvrions des voies d'accès légales et sûres au continent européen, nous pourrions faire baisser l'immigration illégale et nous pourrions également tuer dans l'œuf le commerce des passeurs. Mais souvent, nous nous y refusons pour des raisons strictement idéologiques. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, je crois, dans ce qu'on appelle l'immigration illégale, c'est que c'est largement une inégalité que nous créons nous-mêmes, souvent par des politiques absurdes qui méconnaissent les réalités de l'immigration, mais qui sont décidées uniquement en fonction de critères idéologiques.
Mais c'est-à-dire faire baisser l'immigration illégale en légalisant l'immigration illégale, c'est en effet un choix, mais c'est un choix peut-être problématique, nous le verrons. Donc la question que je pose maintenant à Didier Leschi et à vous, François Gemène, peut-on dire, dans l'état actuel des choses, puisqu'on parle de fermeture de frontières, que la France est un pays fermé ou est-ce un pays ouvert? La France est-elle hospitalière ou la France se caractérise-t-elle aujourd'hui par le repliement frileux comme le reste du continent européen? Didier Leschi.
Bon, mais je voudrais revenir un instant là-dessus. Je crois d'abord que il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est vrai qu'une des principales voies d'entrée de l'immigration illégale en France, c'est le visa de court séjour, et que la caractéristique de la France par rapport aux pays du Maghreb, c'est la délivrance de nombreux, de centaines de milliers de visas de court séjour, avec des personnes qui après ne repartiront pas. L'Algérie, c'est entre 300 et 500 000 visas de court séjour tous les ans, hein, et la Tunisie, c'est pour 11 millions d'habitants, 150 000 visas de court séjour qui sont délivrés. On peut rajouter le regroupement familial, c'est qui prouve un peu une ouverture. Mais je reprends la Tunisie. La Tunisie, c'est entre 9 et 11 000 contrats de travail qui sont délivrés tous les ans à des personnes pour venir en France. Si on multipliait ça à l'échelle de la France, ça voudrait dire 60 000 Français qui partiraient à l'étranger avec un contrat de travail. Et en même temps, et c'est là la difficulté, les Tunisiens sont la première nationalité qui débarque clandestinement en Italie, hein, 13 000 depuis le début de l'année, donc ce fameux Tunisien qui est venu. Et c'est pour ça que on peut pas dire que c'est parce qu'il y aurait une fermeture qu'il y a de l'immigration illégale. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que viennent à nous, et en particulier des pays du Maghreb, les perdants de ces systèmes d'État où la répartition de la richesse est quand même très mal faite et où en même temps nous offrons des voies de passage, en particulier par le travail. Il y a toujours en France une immigration de travail. L'année dernière, c'est 37 000 titres de séjour au titre du travail qui ont été délivrés, essentiellement à des personnes venant du Maghreb. Je pense par exemple aux Algériens. Et en même temps, les Algériens sont la première nationalité à débarquer actuellement en Espagne de manière illégale pour après venir en France. C'est pour ça que le problème n'est pas tant la fermeture. Il n'y a pas de fermeture, comme on dit.
Ah, voilà.
Il y a le fait qu'il y a des personnes venant de ces pays qui n'ont plus leur place ou qui désespèrent et qui passent en même temps que nous continuons à accueillir des personnes de ces pays. Et c'est pour ça que la question n'est pas celle de la fermeture ou de l'ouverture, mais de comprendre vraiment ce qui se passe. Et ce qui se passe est plus complexe que l'idée que la France aurait fermé ses frontières.
Oui, mais alors justement, vous allez quand même plus loin dans votre livre, Didier Leschi. Vous dites que c'est la France qui est plus que l'Allemagne, le gentil, le samaritain de l'Europe. Vous dites qu'on obtient plus facilement le statut de réfugié politique en France qu'ailleurs.
Oui,
les demandeurs d'asile dans notre pays reçoivent une allocation supérieure à celle qui est versée dans la plupart des pays d'Europe. L'hébergement est gratuit sans limite de durée. Vous dites qu'une personne
d'urgence, oui,
qui se maintient sur notre territoire sans en avoir le droit bénéficie pour ses besoins individuel de l'aide médicale d'État, un panier de soins quasiment équivalent à celui des résidents. Seuls sont exclus les cures et la procréation médicalement assistée. Ça coûte 1 milliard d'euros. Et des titres de séjour, dites-vous, sont également accordés à tous ceux qui font valoir qu'ils ne peuvent accéder effectivement à un soin dans leur pays, même si le médicament existe. Et d'autre part, le regroupement familial en France se fait sans délai, sans condition d'hébergement et de ressources, à la différence de la plupart des États européens.
Alors, il y a des choses différentes. La première, en matière de santé, oui, la France, du reste avec la Belgique, a un système de délivrance de titres de séjour pour soins, dès lors qu'on dit que le soin n'est pas effectivement accessible, c'est-à-dire en réalité pour des raisons économiques. Donc on a 30 000 personnes qui ont ce titre de séjour pour soins. On a une aide médicale d'État qui est aussi une particularité française. La plupart des pays européens prennent en charge les soins d'urgence. Nous allons au-delà des soins d'urgence. Mais les demandeurs d'asile ne sont pas à l'aide médicale d'État. Ils sont comme vous et moi, c'est-à-dire à la sécurité sociale générale. En ce qui concerne le regroupement familial, nous sommes un des rares pays où le regroupement familial pour les nationaux, c'est-à-dire les conjoints de Français, qui est la première source d'entrée du regroupement familial, se fait sans condition. On pourrait y rajouter les Algériens qui ne sont pas soumis à des conditions dans le cadre du regroupement familial. Et enfin, en ce qui concerne la protection, le chiffre de 39% avancé par François Jemmaine n'a pas de sens si on ne le voit pas nationalité par nationalité. Aujourd'hui, il y a plus d'Afghans qui s'inscrivent comme demandeurs d'asile en France malgré la pandémie et les difficultés de circulation que l'année dernière à la même époque. Pourquoi ? Parce que la France est un pays qui protège beaucoup plus les Afghans ainsi que d'autres nationalités que les pays voisins. Mais il faut ramener justement le chiffre de 39% au type de nationalité qui demande l'asile en France, qui sont très différentes de celles qui rentrent en Europe. Aujourd'hui, rentrent en Europe des Syriens, des Afghans bien sûr, mais des Vénézuéliens, des Colombiens qui vont essentiellement en Espagne où ils sont plus largement protégés, et ils ne viennent pas en France. Donc ce qu'il faut comparer, c'est nationalité par nationalité, ce qui est fait en France. Et si les Afghans viennent en France, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus protégés. Et si les Géorgiens, les Albanais venaient en France et continuent de venir en France, c'est parce qu'ils ont plus de possibilités d'obtenir l'asile qu'ils ne l'ont dans d'autres pays européens.
François Jemmaine, comment réagissez-vous à tout cela? En concluez-vous que la France est un pays particulièrement hospitalier par rapport au reste de l'Europe?
Sur la question de l'accueil et de l'hospitalité, je pense qu'il est impossible de dissocier la question de la politique française de celle de la politique européenne. D'abord parce qu'au niveau européen, comme je l'ai dit, les frontières extérieures sont de plus en plus fermées, et donc on ne peut pas dire que l'Europe est accueillante alors qu'il y a 40 000 morts aux frontières depuis 1990 et que la Méditerranée est aujourd'hui devenue la destination du monde la plus dangereuse pour les migrants. Alors la question qu'il faut maintenant se poser, c'est de savoir si la France est plus ou moins accueillante que les autres pays européens, je dirais, dans un climat quand même globalement d'hostilité aux migrants. Si l'on regarde les chiffres d'octroi de l'asile, effectivement, comme je l'ai rappelé, le taux de protection en France est de 39%, il est de 57% dans l'Union européenne. Mais comme l'a dit le préfet Leschi, il est important de regarder les chiffres par nationalité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique européenne en matière d'asile, Ce qui veut dire que selon le pays où un demandeur d'asile va déposer sa demande et selon sa nationalité, il va avoir plus ou moins de chances d'obtenir l'asile dans un pays que dans un autre. Et le problème est que les demandeurs d'asile, très souvent, n'ont pas la possibilité de choisir où ils demandent l'asile, puisque ce sont les passeurs qui vont le choisir pour eux. Parmi les chiffres que citait Didier Leschi, j'ai envie de dire qu'il y a malgré tout un problème dans les chiffres qu'il cite. Bon, il est préfet, représentant de l'État en charge de l'accueil et de l'intégration, et donc je comprends qu'il veuille évidemment défendre la politique de l'État en la matière, mais je pense malheureusement qu'il a recours à cette idée qu'on appelle l'appel d'air, c'est-à-dire l'idée que si nous sommes plus généreux que d'autres, ça va amener davantage de personnes à venir en France. Or, cette idée n'a aucun fondement. Si les gens partent, quittent leur famille, quittent leur village, leur communauté, sont prêts à payer des milliers d'euros aux passeurs et à prendre des risques en Méditerranée, ce n'est pas pour toucher des allocations familiales ou pour avoir tel ou tel médicament remboursé par la sécurité sociale. Alors oui, bien sûr, les demandeurs d'asile qui sont en France reçoivent une allocation. Pourquoi est-ce qu'ils reçoivent une allocation qui est effectivement supérieure à celle qu'ils peuvent recevoir dans d'autres pays ? C'est aussi parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler en France pendant la durée de leur demande d'asile, qui peut prendre très longtemps, qui est heureusement été ramenée à 9 mois par le gouvernement précédent. L'aide médicale d'État. Pourquoi est-ce que nous prenons en charge leurs soins de santé ? Mais parce que nous savons le coût que représente une épidémie. Nous le voyons bien pour le moment avec l'épidémie du coronavirus et les coûts qu'elle engendre. On se rend bien compte qu'il est dans notre intérêt à tous que les migrants et demandeurs d'asile soient en bonne santé et soient soignés en France. Encore une fois, nous ne le faisons pas juste par grandeur d'âme ou par générosité. Nous le faisons aussi parce que c'est dans notre intérêt. Et nous versons une allocation de remplacement parce que nous ne pouvons pas laisser les gens mourir de faim, bien entendu.
Et n'est-il pas...
Mais ce n'est pas ces aides qui vont déterminer le choix de la France comme pays de destination.
N'est-il pas dans notre intérêt aussi, François Jemaine, de reconduire à la frontière les clandestins et les déboutés du droit d'asile, un intérêt politique, puisenfin ils n'ont pas de titre à être là, et puis un intérêt civilisationnel, si l'on admet que les civilisations ont le droit de persévérer dans leur être, et dès lors, peut-être qu'une immigration trop nombreuse, venue de pays d'autres civilisations, risque en effet de rendre cette perpétuation toujours plus difficile. François Jemaine, puis Didier Leschi.
Alors, je distinguerai ici les deux questions. Il y a d'abord une question pragmatique et prosaïque sur la question des expulsions et des reconduites à la frontière, et puis une question, je dirais, plus philosophique sur la question des nations et des civilisations. Sur le premier aspect, donc l'aspect prosaïque et pragmatique, il est certain qu'en France, il y a peu d'obligations de quitter le territoire qui sont appliquées. Seuls environ 14% des personnes qui sont déboutées du droit d'asile, par exemple, sont reconduites chez elles. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Parce que la France a toujours tendance à préférer des expulsions forcées qui entraînent de très nombreux recours et qui surtout coûtent très cher, qui coûtent environ 14 000 euros par personne expulsée, donc qu'on se rend compte du coût considérable que cela représente, alors que des retours aidés, c'est-à-dire où l'on donnerait un petit pécule d'argent aux gens pour qu'ils rentrent chez eux, sont généralement plus efficaces, moins onéreux, mais sont beaucoup moins pratiqués en France, contrairement à ce que recommandent plusieurs commissions parlementaires. Et effectivement, la France, effectivement, expulse peu des déboutés, 14%, l'Allemagne, par exemple, en expulse environ 89%. Sur le deuxième volet, c'est-à-dire la possibilité pour les nations, pour les civilisations, de se maintenir dans l'espace. Je pense effectivement que je ne crois pas à une sorte de dilution des valeurs ou des cultures, et je crois qu'il est légitime pour chaque pays, pour chaque nation, de maintenir un socle de lois, de cultures, de traditions, etc. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas le degré d'ouverture ou de fermeture des frontières qui va déterminer si les gens vont ou viennent. Ce n'est pas ça qui va déterminer les flux migratoires mondiaux. L'obstacle premier à la migration, ce n'est pas la fermeture des frontières, c'est l'argent. Migrer coûte très cher, et donc ça ne reste accessible qu'à une petite partie de l'humanité. Seuls 3% de l'humanité dans le monde sont des migrants internationaux, et donc ce qui, quelque part, focalise tellement de débats en France, reste malgré tout une petite partie de l'humanité. Et donc vraiment, je crois qu'il faut insister très fort sur ce point, parce que nous restons convaincus et persuadés que si nous ouvrions davantage nos frontières, il y aurait une sorte de grand chaos migratoire, qu'il n'y aurait plus d'État, plus de nations, plus de possibilité d'avoir une sécurité sociale. En réalité, ce qui contraint les gens à rester chez eux, ce ne sont pas les frontières, c'est le coût des migrations.
Didier Lesky.
Non, mais d'abord, moi, je n'utilise jamais le terme d'appel d'air. Donc, je ne sais pas d'où Monsieur Gémen sort cela. La deuxième chose, c'est que contrairement à ce qu'il dit, la France a une politique d'aide au retour volontaire. Elle est du reste une des plus généreuses d'Europe, puisque le pécule qui est donné varie entre 1 800 euros et 10 000 euros. Il n'y a aucun équivalent en Europe, et du reste, c'est parce qu'il n'y a aucun équivalent en Europe, et parce que notre système qui est mis en place à l'OFI est particulièrement performant, que nous avons aujourd'hui des accords avec un pays comme l'Allemagne et d'autres, pour qu'ils utilisent nos mécanismes de réinsertion dans les pays d'origine. Donc c'est faux de dire que la France ne fait que privilégier les recours contraints. La deuxième chose, c'est que la différence effectivement entre la France et d'autres pays, je pense à l'Allemagne, c'est qu'en France, on ne va pas chercher les personnes qui sont déboutées ici ou sont clandestines dans les centres d'accueil pour les ramener en Afghanistan ou peut-être demain en Syrie, puisque l'Allemagne a décidé de le faire aussi pour la Syrie. Donc tout ça est une vision complètement faussée et je dirais caricaturale de ce qui se fait. C'est pas parce que j'ai envie de défendre l'État que je le dis, c'est parce qu'à un moment donné, il faut faire une enquête, il faut dire les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on les imagine ou on les entend. Voilà. La troisième chose, c'est que bien évidemment, on est dans une situation où les gens pensent et quand ils viennent en France, c'est pas simplement parce que les passeurs leur vendent la France, et c'est vrai qu'ils peuvent leur vendre la France, mais c'est parce que aussi à un moment donné, ils réfléchissent à ce qu'ils ont fait et ils regardent quelles sont les possibilités en fonction des pays. Et c'est vrai que nationalité par nationalité, la France accorde plus facilement l'asile que dans d'autres pays. Et que ce soit pour les nationalités subsahariennes ou que ce soit pour les nationalités maghrébines ou les nationalités d'Europe de l'Est. Après, le pourcentage en volume, hein, comparé en volume, reste très bas, mais c'est comme ça qu'il faut comparer. Enfin, dernière chose sur la question de la migration en général. On ne peut pas ne pas penser que la destruction d'un certain nombre d'États et même de l'autre côté de la Méditerranée, ne finissent pas par avoir des impacts aussi sur nous. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de chaos qui peut aussi toucher les consciences, et ce qui fait qu'après, on peut avoir nous-mêmes des difficultés à intégrer les personnes. Enfin, bien sûr que la protection sociale, ça a un coût, et les pays qui n'ont pas de frontières, d'une certaine manière, comme les États-Unis, sont des pays où il n'y a pas de protection sociale, en tout cas pas telle qu'on l'entend nous. Et donc la question, c'est quel est le volume qu'on peut prendre en charge, de quelle manière et avec quel dispositif. C'est ça qui doit être discuté. Et pendant très longtemps, c'était discuté par rapport au travail. La difficulté que nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est pas une question de nombre, mais c'est une question de richesse collective, c'est que l'absence de travail a un impact sur l'ensemble de ceux qui peuvent résider à un moment donné en France. Et c'est ça qu'il faut réfléchir comme situation, et pas simplement de dire on peut accueillir tout le monde parce que la richesse serait infinie.
Non, mais je voudrais là, à ce point de la discussion, vous citer un penseur, un philosophe politique de gauche, américain Michael Walzer. Il dit qu'en l'absence d'une politique, que le monde a besoin de frontières, et qu'en l'absence d'une politique souveraine d'admission des étrangers, il ne pourrait pas y avoir de communauté de caractère historiquement stable, des associations continues d'hommes et de femmes, spécialement engagées les uns envers les autres, et ayant un sens spécifique de leur vie en commun. Il me semble qu'on connaît aujourd'hui une véritable crise de l'intégration, dont la loi visant à conforter les principes républicains contre ce qu'on appelle les séparatismes est en quelque sorte l'expression, le symptôme, et peut-être un remède. Et ne pensez-vous pas l'un et l'autre que cette crise de l'intégration pourrait aboutir à une véritable désintégration nationale si on n'arrivait pas à une véritable maîtrise des flux migratoires? François Gémen.
Sur la question des frontières, je crois qu'il est très important de distinguer la question de l'ouverture des frontières de la question de l'éventuelle suppression des frontières. Et là, on mélange un peu les deux. Ce dont parle Michael Walzer, que vous avez cité, c'est de la suppression des frontières et l'idée d'avoir un monde qui serait complètement globalisé. Ce que je défends, c'est qu'une plus grande ouverture des frontières permet au contraire un meilleur contrôle de celles-ci, ce qui crée le chaos aux frontières, ce qui crée des situations indignes où les gens sont dans des camps, c'est précisément le fait que nous les ayons fermées sans maintenir de possibilités légales d'immigration. Or, si nous ouvrions des canaux légaux d'immigration, nous pourrions bien mieux contrôler qui vient, nous pourrions aussi bien mieux reconduire à la frontière, et donc les gens s'imaginent souvent que l'ouverture des frontières équivaudrait à leur suppression, mais ce n'est pas du tout le cas. Je crois au contraire qu'une plus grande ouverture des frontières permettrait de renforcer la sécurité aux frontières et donc permettrait aussi à chaque État, à chaque nation, de conserver ses propres lois, ses propres particularismes, en quelque part luttant contre ce qui est aussi une injustice fondamentale. Si nous voulons nous placer sur le terrain de la philosophie, il y a une injustice fondamentale aujourd'hui dans le monde qui est que le destin des uns et des autres est largement déterminé par leur lieu de naissance, c'est-à-dire par la chose qu'ils n'ont absolument pas choisi. Et il me semble que, précisément, une plus grande ouverture des frontières permet de répondre un peu à cette injustice fondamentale du lieu de naissance. Alors maintenant, sur la question de l'intégration. Vous avez absolument raison, Alain Finkielkraut, de dire que c'est un domaine qui était complètement laissé en jachère depuis plusieurs années. C'est-à-dire que on n'a jamais véritablement investi suffisamment en France pour promouvoir l'intégration. Et quand nous l'avons fait, nous avons considéré que c'était une sorte d'intégration à sens unique, c'est-à-dire que tout le poids, toute la charge de l'intégration reposait sur les épaules du nouvel arrivant et qu'en quelque sorte, sa société d'accueil n'avait aucun effort particulier à faire et qu'il devait s'y assimiler. Ça a été longtemps le credo des politiques d'intégration française. Le problème, on le voit aujourd'hui, ce sont les discriminations aussi qui empêchent cette intégration, qui empêchent l'idéal républicain d'égalité de se réaliser. Et je crois que si l'on veut véritablement mener une politique d'intégration qui réussisse en France, il faut la concevoir dans les deux sens, comme une obligation à la fois du nouvel arrivant, mais aussi comme une obligation de celui qui accueille. Et effectivement, c'est en investissant davantage dans des politiques d'intégration que nous parviendrons quelque part à créer le terreau commun de ce que nous voulons faire ensemble. Nous avons trop souvent tendance en France, je crois, à nous poser la question de savoir d'où l'on vient et quelque part à faire des catégories et parfois des jugements de valeur sur la question de savoir d'où l'on vient, nous ne regardons pas suffisamment où nous voulons aller ensemble. Et c'est bien là l'enjeu des politiques d'intégration. Et s'il y a aujourd'hui un problème dans notre pays qu'il faut reconnaître par rapport à l'immigration, par rapport à l'intégration, s'il y a autant de jeunes qui vont retrouver dans l'islam radical une sorte d'identité, et c'est un problème, c'est aussi parce que quelque part, ils ne voient plus où nous pouvons aller ensemble. Ils ne voient plus comment ils peuvent faire partie de ce projet commun. Et c'est le sens, je crois, que nous devons donner à des politiques d'intégration réussies.
Didier Lesky, vous êtes d'accord avec ce diagnostic ?
Je suis d'accord sur le fait qu'il y a un problème d'intégration. Et je suis d'accord sur le fait que les communautés d'origine sont devenues une appartenance plus forte que les partis ou les syndicats et que on a eu un affaiblissement des cadres qui permettaient les processus d'intégration, qui passaient essentiellement... Enfin, beaucoup par le travail et à partir du travail par une socialisation qui permettait d'avoir des combats communs, du dialogue, etc. On est aujourd'hui dans une situation où même l'idée d'une langue commune est quelque chose qui s'est éloigné tellement il peut y avoir des enfermements communautaires. Donc on a une difficulté majeure auquel se rajoute, et je suis d'accord, le fait que les espérances laïques se sont effondrées, et c'est ça qui permettait d'avoir un horizon commun pendant très longtemps, et avoir comme figure, je dirais, politique Messaliage, c'est pas la même chose que d'avoir comme figure politique Ben Laden, voilà, et on est un peu dans une situation comme celle-là. Alors comment on peut la résoudre? Je pense que c'est pas simplement un problème d'argent et d'investissement, et c'est vraiment aussi un problème de bataille idéologique, et en particulier vis-à-vis de l'islam radical. Je suis un peu frappé du reste dans la discussion autour de la loi là, présentée par le gouvernement. Il y a à mon sens une seule mesure, enfin une des mesures les plus intéressantes, parce qu'elle a une incidence à la fois ici et de l'autre côté de la Méditerranée, c'est celle sur l'égalité en matière d'héritage, parce que c'est la seule qui impacte à la fois notre droit et le droit des pays principaux d'immigration, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. D'ailleurs, le fait que une femme pourra sur les biens de son frère récupérer la part qui ne lui sera pas donnée, parce que les lois d'héritage de l'autre côté de la Méditerranée lui donne pas la même part. Voilà des choses qui font un aller-retour et qui permettent très concrètement de lutter contre quelque chose qui est l'impact de plus en plus fort à partir de lois comme à partir de modes de vie sur notre société et dans le cadre du processus migratoire.
Bon, alors écoutez, là maintenant, Didier Lesky, je voudrais vous poser une question sur un problème qui vous concerne directement en tant que directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Mais c'est une question aussi qui va intéresser François Jemaine dans la mesure où il me semble qu'elle montre que peut-être les immigrés ont tort de se plaindre de l'attitude de la France à leur endroit. C'est un article que j'ai lu dans le Courrier international, justement, qui concerne cet Office français de l'immigration et de l'intégration. Un Syrien, un journaliste syrien, dans son parcours de réfugié, donc, est allé signer un contrat d'intégration républicaine. Il dit « Étant donné que je ne maîtrisais pas encore la langue française, j'ai demandé la présence d'un interprète. J'ai préféré une traduction vers l'anglais, puisque j'étais certain qu'en cas de traduction vers l'arabe, le résultat allait être catastrophique. Il en a eu la confirmation. Quand il s'est retrouvé à la même table que des réfugiés originaires de différents pays arabes, qui étaient flanqués d'une interprète franco-marocaine. Celle-ci se répandait en commentaires et remarques au sujet de tout ce que le formateur nous apprenait. Et cet affreux bavardage de l'interprète consistait par exemple à dire que les droits de l'homme et la démocratie n'étaient que mensonges. Elle affirmait que la France avait répandu l'esclavagisme et qu'elle continuait à faire la même chose aujourd'hui sous d'autres formes, qu'elle feignait d'aider les réfugiés alors qu'en réalité l'exode des populations était causé par la politique guerrière qu'elle menait au Moyen-Orient. Bien sûr, elle n'assumait pas ce discours devant les responsables, mais le faisait passer pour des conversations amicales et anodines. Évidemment, elle n'a pas oublié d'expliquer qu'à titre personnel, elle avait profité de la gratuité des prestations offertes par l'État, d'un logement à loyer réduit et à l'enseignement scolaire et universitaire pour ses enfants. D'où une question à vous, François Lesky. S'agit-il d'un cas isolé ou d'un phénomène répandu? Et une question à vous deux, de quoi les immigrés en France se plaignent-ils? François Lesky.
Didier Lesky.
Excusez-moi.
Oui, c'est une histoire malheureusement exacte.
Est-ce qu'elle se répète?
Elle n'est pas. L'OFI fait 500 000 journées de formation de ce type. Bon. Mais ça renvoie effectivement à un autre problème. C'est le fait que on peut avoir des personnes issues de l'immigration qui ont fini par intégrer complètement cette idée que leur situation personnelle serait le produit différé sur une longue durée de l'ancienne emprise coloniale française en Maroc ou en Algérie, et à partir de là, il y a une sorte de ressentiment infini qui fait que on peut avoir des discours de ce type qui, heureusement, sont très minoritaires. C'est la première fois en 5 ans que j'ai ce type d'exemple qui est tragique, parce que ça fait une bulle médiatique et sur les réseaux sociaux très dommageable. Mais c'est ça le fond du problème, parce que il ne faut pas oublier que des pays comme des dirigeants algériens par exemple depuis des années ne cessent d'expliquer que leur propre impéritie est liée à quelque chose qui se serait passé avant 1962, et ça finit par peser sur la conscience de tas de gens qui peuvent le croire, alors qu'en même temps, ils n'ont cessé d'espérer venir en France pour justement échapper à ces conditions difficiles de l'autre côté de la Méditerranée.
Cet épisode vous inspire-t-il un commentaire, François Jemaine ?
Oui, je ne voudrais pas ici, évidemment, défendre l'office, ce n'est pas mon rôle, mais je dirais qu'aucune administration, aucune institution française n'est évidemment à l'abri de certains manquements, n'est évidemment à l'abri de certains fonctionnaires ou employés qui manquent à leur devoir. Ça se constate aussi dans d'autres institutions, et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Sur la question du ressentiment que peuvent éprouver certains immigrés, je dirais que il s'explique, à mon sens, largement par une certaine faillite de certaines politiques d'intégration et par le sentiment, quelque part, d'être toujours considéré comme étant à l'écart du projet national. Moi-même, qui suis un immigré, je suis très souvent considéré comme français, mais je constate que d'autres qui sont issus de l'immigration sont encore souvent considérés comme étrangers alors qu'ils sont nés sur le sol français, mais on va continuer à parler d'immigrés de seconde ou de troisième génération, ce qui sont des termes qui n'ont aucun sens. Ils sont français, nés sur le sol français. Et donc je crois véritablement que trop souvent, nous avons tendance à nous focaliser sur la ligne de départ plutôt que sur l'horizon commun. Et c'est en renvoyant sans cesse chacun à ses origines, quelque part en les renvoyant sans cesse à cette identité, qu'on va créer ces fractures et qu'on va créer ce ressentiment qui vont faire que certains qui vont avoir eu le sentiment d'avoir tout fait pour s'intégrer et qui vont se heurter à un mur de discrimination où ils sont sans cesse renvoyés à leur origine et à leur identité, vont quelque part nourrir un ressentiment à l'égard de cette société qui ne veut pas d'eux. Et je crois que c'est contre cela que nous devons lutter ensemble. C'est dans l'intérêt de toutes et de tous.
C'est dans l'intérêt de tous et de toutes. Vous avez tout à fait raison, François Jemaine. Mais vous dites qu'ils sont renvoyés à leurs origines. Il y a de nombreux jeunes issus de l'immigration dans les lycées ou dans les collèges qui, voyant un élève français d'origine française, souvent minoritaire dans certaines communes ou dans certains quartiers, lui dire qu'il n'a pas d'origine. Ah oui, toi, t'as pas d'origine. Et surtout, désigner les autres Français en les appelant les Français. C'est un phénomène extrêmement fréquent, répertorié. Et donc, la question du renvoi à l'origine, si vous voulez, n'est pas forcément déterminée par l'attitude méfiante ou raciste de la majorité, c'est parfois un réflexe, peut-être un réflexe de défense, un réflexe de fierté, de ceux qui, effectivement, se réclament de plus en plus de leur origine étrangère. Et on l'a vu aussi dans certains matchs de football, où ça a commencé dès le début des années 2000, au Stade de France, l'équipe de France était copieusement sifflée par un public majoritairement composé de Français d'origine marocaine, tunisienne ou algérienne. Mais je voudrais maintenant poser une autre question qui concerne à nouveau l'immigration, notamment africaine. Vous dites très bien, François Jemaine, que cette immigration ne concerne pas les plus pauvres. Vous reprenez les analyses de Stephen Smith, les plus pauvres n'ont pas l'argent nécessaire pour se payer le voyage. Ça concerne souvent des jeunes gens ou des personnes plus mûres venues des classes moyennes. Mais ça consiste, et François Leski le dit également, à dépeupler les pays africains des personnes les plus compétentes, et notamment de leurs médecins. C'est Didier Leski qui le dit. Sur 215 000 médecins exerçant en France, plus de 30 000 le font avec un diplôme obtenu à l'étranger. Le tiers des médecins formés au Cameroun, au Congo ou au Sénégal s'expatrient d'abord en France. Et vous ajoutez, François Jemaine, que les migrants sont devenus les principaux investisseurs dans leur propre pays et les acteurs essentiels de leur développement. c'est l'économie nationale tout entière de ces pays qui s'effondrerait sans les fonds envoyés par les migrants. Mais je me demande si ça peut durer. Est-ce que l'intérêt majeur des pays africains, c'est n'est pas que les médecins, notamment, restent chez eux. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément malsain dans ce transfert des compétences, François Gemène?
Bien sûr, cette question de la fuite des cerveaux est un problème. C'est le cas en matière de médecins. 14% des médecins qui exercent en France sont étrangers. C'est le cas des ingénieurs. Et effectivement, cela prive les pays d'origine d'une partie de ce qu'on appelle leur force vive. Et c'est un problème. Et j'ai envie de dire, nous avons ici une sorte de collision de deux intérêts, d'un intérêt individuel et d'un intérêt national. Qui serions-nous au fond pour aller dire à ces médecins diplômés en Afrique, par exemple, qu'ils n'ont pas le droit d'augmenter leur espérance de vie, qu'ils n'ont pas le droit de gagner un meilleur salaire, qu'ils n'ont pas le droit de nourrir leur famille en migrant en Europe ou aux États-Unis? De quel droit est-ce que nous nous opposerions à leurs droits individuels? Et bien sûr, nous pouvons reconnaître que c'est un problème structurel aussi pour le pays d'origine. C'est pour ça, encore une fois, que je pense qu'une plus grande ouverture dans nos frontières permettrait de régler ce problème, permettrait à la fois de répondre à l'aspiration légitime de chacun d'avoir une vie meilleure, mais leur permettrait aussi de pouvoir revenir au pays et de faire bénéficier leur pays d'origine de leurs compétences. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui sont arrivés restent en Europe? Parce qu'ils savent très bien que s'ils retournaient dans leur pays d'origine, ils n'auraient souvent plus de moyens de revenir à nouveau en Europe. Et donc, si nous permettions davantage de circulation, davantage d'aller-retour, nous pourrions réconcilier ces deux intérêts, l'intérêt national et l'intérêt individuel. Je voudrais aussi, Alain Finkielkraut, revenir un instant sur ce que vous avez dit sur l'effet de majorité et de minorité sur parfois l'équipe de France sifflée au Stade de France ou sur ces gamins français qui étaient renvoyés à leurs conditions de français dans certaines écoles. Vous avez raison de dire que ce n'est pas seulement l'effet du nombre, c'est aussi largement l'effet de politique structurelle en matière d'urbanisme ou en matière de scolarité qui va effectivement faire que, à certains endroits, les gens vont se raccrocher à l'identité de leur pays d'origine. Et je pense qu'un défi que nous avons, c'est de nous rendre compte que ces identités ne sont pas forcément excluantes l'une de l'autre et que les gens peuvent à la fois, dans un match de football ou dans une Coupe du Monde, soutenir l'équipe de leur pays d'origine et l'équipe du pays qui les a accueillis. Nous avons toujours tendance à opposer ces identités. La réalité, c'est que la France est un très vieux pays d'immigration. Déjà en 1930, il y avait 7% d'immigrés en France. De plus en plus, notamment par les mariages mixtes, les gens vont avoir des identités multiples qu'ils vont combiner entre elles. Et je pense qu'il faut arrêter d'être dans une logique où l'identité, une identité va exclure une autre. Au contraire, il va falloir les combiner entre elles à l'avenir, je crois.
Didier Lesky.
Non, mais les médecins, c'est exemple type. Moi, je ne crois pas que ce qui explique le départ et qu'on pourrait le résoudre simplement par le fait que les personnes pourraient retourner dans le pays d'origine. D'abord, je rappelle par exemple que l'Algérie a arrêté l'immigration vers la France avant même que la France l'arrête, c'est-à-dire en 1973, et la France l'a arrêté en 1974. Les médecins algériens qui viennent en France, vous pouvez ouvrir la frontière pour repartir, ils ne repartiront pas travailler en Algérie, parce que le problème, c'est les différences entre les niveaux de vie et la situation des pays. Donc l'impéritie.
Nous étudiants ici, Didier Lesky.
Non, mais là on parlait des médecins justement.
Mais des étudiants en médecine.
Non, mais là moi je parle des médecins. C'est-à-dire ce sont les médecins algériens qui viennent en France, pas les étudiants en médecine, les médecins algériens. Hein, et du reste, en ce qui concerne les médecins algériens et la médecine en Algérie, les Algériens sont les premiers bénéficiaires du titre de séjour étranger malade. Hein, il y en a entre 4 et 5 000 qui tous les ans obtiennent cela. Mais je dirais que l'exemple vient de haut. Quand le président de la République algérienne vient se faire soigner pendant des années au Val-de-Grâce, c'est-à-dire dans l'hôpital de l'ancienne armée coloniale que par ailleurs on accuse d'avoir fait un génocide, vous voyez bien que on institue dans la société algérienne une absence totale de confiance dans le système de santé. Donc les médecins viennent et puis après, d'une certaine manière, les Algériens qui le peuvent viennent se faire soigner aussi ici. Et donc, la question de la migration circulaire le problème n'est pas l'ouverture des frontières. Le problème, c'est les différentiels de niveau de vie et de situation, en particulier des classes moyennes, qui effectivement ne veulent pas continuer à vivre dans des pays où les dirigeants passent plus de temps à accaparer les richesses qu'à essayer de construire un avenir meilleur pour leur jeunesse. Et une politique éthique en matière de migration, ça serait d'être beaucoup plus ferme avec ces dirigeants en leur disant ben, il faut créer les conditions d'une vie meilleure pour votre population et pour vos jeunes. Or, c'est la critique qui est la moins en moins faite. Je veux dire, on a une facilité qui est de dire « ouvrez les frontières, comme ça les gens viendront », mais on dit beaucoup moins de choses dures vis-à-vis de ces dirigeants qui font tout d'une certaine manière pour qu'une partie de leur population s'expatrie. Ça leur évite des problèmes sociaux et des revendications politiques.
Bien. Écoutez, merci beaucoup Didier Lesky. Merci François Jemaine. La discussion aurait pu continuer. Nous aurions pu nous interroger sur la validité de la distinction entre réfugiés politiques et migrants économiques. Doit-elle être maintenue et comment? Malheureusement, le temps nous est compté, mais je renvoie à la lecture de vos deux livres. Didier Lesky, ce grand dérangement, L'immigration en face, il est publié chez Gallimard dans la collection Tract. François Jemaine, vous avez publié « On a tous un ami noir » pour en finir avec les polémiques stériles sur les migrations chez Fayard. Merci beaucoup. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Ils se souviennent, mes invités seront » Robert Bobert et Georges Kiesman. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Aurélie Marsay et de François Connac. À la technique aujourd'hui, Élise Le. Tout à l'heure, à 12h45, l'émission La suite dans les idées de Sylvain Bourmeau sera consacrée à la question de l'asile et de l'exil avec la politiste Karen Akoka et la metteuse en scène Judith Depaule. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.